Chapitre 22e. Couleur du prisme. Sans consulter son conseil intime de dame, Eudoxie avait pris sa résolution avec l'empereur. De plus en plus, elle voulait gouverner par elle-même, gouverner seule, ne suivre que ses vues, n'exécuter que ses idées, et cela lui était très facile quand elle se contentait de conférer avec l'empereur, qui modelait toujours son opinion sur la sienne. La fière Marsa ne sentait que trop combien Eudoxia impératrice différait chaque jour davantage d'Eudoxia sa pupille. Aussi cherchait-elle par toutes sortes de flatteries à rester agréable à l'impératrice. Les autres dames suivaient son exemple, pensant bien que Marsa savait au mieux ce qui plaisait à Eudoxia. Ainsi Eudoxia prit peu à peu l'attitude d'une idole placée non dans un temple, mais sur le trône, et éternellement enveloppée de nuages d'encens. Amensus et Gunilde étaient les seuls qui s'abstinssent de ces démonstrations idolâtres, et les seuls auxquels Eudoxia permit de manquer à ce culte. Ils voyaient l'un et l'autre avec chagrin la voie dangereuse, où cet esprit orgueilleux s'avançait, mais par des considérations différentes. Amensus s'affligeait de voir que Eudoxia fit tourner ses brillantes qualités à sa propre perte et à celle du prochain. Gunilde était triste, parce qu'elle sentait que son cœur se détachait de plus en plus d'Eudoxia. Et s'il venait à s'en éloigner tout à fait, que deviendrait-elle alors? Qui pourrait-elle aimer? Qui pourrait-elle honorer? Gunilde cherchait plus qu'autrefois à se mettre en contact avec Amensus. Elle ne pouvait s'empêcher d'avoir confiance en lui seul à la cour, bien qu'elle sût qu'il avait le vif désir de l'enlever à l'arianisme, et bien qu'elle fût résolue à ne pas se laisser convertir. Mais son esprit droit cherchait un point où il trouva la droiture et la conscience, et ce point était occupé par Amensus. Eudoxia voyait cela avec plaisir. Elle espérait qu'Amensus prendrait enfin une influence déterminante sur Gunilde, et elle lui fit part de cette espérance. « Seulement, lui dit-elle, évitez les considérations trop élevées. Ne prenez pas avec elle un essor trop hardi qui pourrait l'effrayer. » Loin d'être effrayée d'un essor élevé, elle n'en serait que plus attirée, à ce que je crois, répondit Amensus. « Oui, dit l'impératrice en riant, pourvu qu'il ne soit pas catholique, pourvu qu'il ne repose pas sur des principes catholiques. Le triste esprit de contradiction qui possède cette jeune fille la rend très malheureuse. Son âme soupire après la vraie foi, et son esprit entêté se tient en garde contre elle. Je vous en prie, abordez-la avec prudence et traitez-la avec patience. Malgré sa trahison qu'il a suffisamment payée de sa tête, je n'oublierai jamais que le père de Gunilde a par deux fois délivré l'empereur de l'humiliante domination des favoris. « Vous avez le cœur au placé, madame, » dit Amensus. « Je suis si peu habitué à vos louanges, » dit Eudoxia amicalement, « que ce mot sonne à mon oreille comme un brillant éloge. » « L'impératrice sait que je ne me permettrai rien de pareil, » répondit Amensus avec respect. « Entre égaux, il est permis de se louer. » Les supérieurs peuvent donner des louanges à leurs subordonnés, mais si les rôles sont inverses, on est bien exposé à tomber dans la flatterie.
C'est cependant l'inverse qui est en usage.
Oh, madame, le monde attend de renversements.
Je l'accorde. Mais la nature humaine est si imparfaite qu'elle veut de ces renversements et qu'elle souffre de leurs privations.
Ne serait-ce pas là une preuve que nous devons tendre à la perfection ?
La nature humaine, régénérée par la grâce, n'est-elle pas trop noble pour rester dans une sphère où l'on souffre de la privation des choses renversées?
Voyez à quelle hauteur vous vous envolez, dit Eudoxia.
Emmenez Gunilde avec vous. Je me réjouirai si vous y réussissez. Eudoxia ne s'apercevait pas qu'elle-même était sujette à cette contradiction d'esprit qu'elle déplorait en Gunilde. Quand Eugraphia, après toutes sortes de préambules et de précautions oratoires, en vain à parler de la convocation d'un concile, elle ne fut pas peu surprise d'apprendre que l'empereur y avait déjà donné son agrément.
« Quelle joie pour le vénérable patriarche d'Alexandrie » s'écria-t-elle. Il se sentait indiciblement oppressé parce que le flambeau de votre grâce semblait éteint pour lui, depuis que l'année dernière ses moines égyptiens, les longs frères, ont fait leur apparition.
« L'ai-je offensé ? » interrompit vivement Eudoxia.
« Profondément contristé seulement. » « Auguste impératrice,
il ne repoussera donc pas l'invitation ?
Il l'accueillera avec joie. parce qu'elle lui offre l'occasion désirée de se justifier devant vous de différentes inculpations. »
Je pourrais vous répondre que cette justification ne lui tenait pas beaucoup au cœur jusqu'à présent,
dit Eudoxia froidement. « Car je l'ai engagé il y a plus d'un an à paraître à la cour, et il n'est pas venu. »
« Sans doute, le fardeau de ses affaires. »
« Laissons cela de côté, » dit Eudoxia.
« Peut-être lui ai-je écrit un peu sévèrement. »
« Si sévèrement que votre disgrâce l'a effrayé, auguste impératrice. » « Si j'étais injuste envers lui, je veux le réparer. » « Et lui écrire une invitation amicale de ma propre main. Qu'en pensez-vous, Eugraphia ?»«
Cela le rendrait extrêmement heureux. »
« Et lui ferait connaître l'attitude qu'il devra prendre ici. »
Si vous voulez bien lui donner à cet égard quelques indications, ô noble souveraine.
Je vous avoue, Eugraphia, que les griefs portés contre le vénérable Théophile s'élèvent au moins à 70. Il doit donc songer à sa justification et avant tout se réconcilier avec les moines égyptiens, s'il ne veut soulever contre lui tout le peuple pieux de Constantinople.
Est-il possible? Le peuple est-il si attaché à ses longs frères?
Les longs frères ne sont que les chefs de file, les porte-voix de la bande. Ils sont accompagnés d'une cinquantaine de vieillards, tous à cheveux blancs, les traits amaigris, pieds nus, vêtus du pauvre costume des solitaires, la véritable image de la mortification la plus rigoureuse. Le patriarche Chrysostome les a logés dans un bâtiment attenant à l'église Saint-Anastase et a confié le soin de leur entretien à la diaconesse Olympia, qui n'a pas de bien lourdes dépenses à faire pour eux, car les bons religieux ne mangent que des herbages ou des fèves cuites à l'eau. Ils travaillent toute la journée à tresser des nattes de joncs que le peuple leur achète avec une véritable passion pour avoir l'occasion de se recommander à leurs prières. Ils produisent une grande impression de piété. Je suis allé visiter l'église. Dans la sacristie, les vieux solitaires se sont jetés à mes pieds en protestant de leur attachement sincère à la vraie foi et de leur éloignement de toute hérésie. Et il m'était impossible de ne pas leur demander leur bénédiction et leur prière pour l'empereur, pour mes enfants et pour l'empire. Votre piété, auguste souveraine, attirera la bénédiction de Dieu sur tout ce qui vous appartient et qui vous touche, s'écria Eugraphia. Cela m'encourage à espérer que les tristes circonstances si imprudemment occasionnées par le patriarche de Constantinople trouveront leur accommodement. C'est là précisément le but capital du concile. Les plaintes contre le patriarche d'Alexandrie cesseront d'être mises en avant aussitôt que nous aurons ici cet homme plein d'adresse, de souplesse et d'énergie. Après cette causerie avec l'impératrice, Eugraphia vit avec joie son plus vif désir réalisé en esprit. Théophile sur le siège patriarchal de Constantinople, Eugénius sur un siège épiscopal en Thrace ou en Ionie, et Chrysostome dans un cloître quelconque à Antioche. Par le même vaisseau qui porta la lettre de l'impératrice à Alexandrie, Eugraphia fit partir son confident haineux, Florus, afin qu'il exposât à Théophile l'état des choses d'une manière plus complète et plus sûre qu'elle ne pouvait le faire par écrit. « Comme vous avez toute ma confiance, lui dit-elle avant son départ, je vais vous communiquer une idée que vous pourrez peut-être mettre à exécution par l'intermédiaire d'un ami éprouvé. Il serait important pour le prochain concile d'être bien renseigné sur la vie passée du patriarche Chrysostome. Il est d'Antioche. Il y a vécu 50 ans, d'abord comme procureur, ensuite comme prêtre. Il sera donc très facile de connaître la vie qu'il y a menée. Seulement, il faut agir avec précaution. Je connais quelqu'un qui convient tout à fait pour cette mission, madame, répondit Florus, fort satisfait. Et quel est cet homme de confiance? Demanda-t-elle. Il n'a pas besoin de savoir qui l'envoie à Antioche, mais je dois savoir qui il est, pour le faire surveiller sans qu'il s'en doute. La sage prévoyance ne peut jamais nuire, madame. Si je ne connaissais votre esprit élevé, j'hésiterais peut-être à vous nommer le personnage, mais je puis vous le désigner sans détour. C'est le moine syrien Isaac, un malheureux qui, dans l'effervescence de la jeunesse, a cru posséder la vocation du cloître, et qui peut-être la possède en effet, mais qui ne peut trouver de cloître où la discipline s'accommode à la liberté de son esprit, et qui voyage sans cesse à la recherche de ce cloître introuvable. Je n'ai aucune confiance en ce moine vagabond. Ce sont d'ordinaire des vauriens, des êtres sans conscience. Et malgré soi, on se sent une répugnance morale pour ces échappées de cloître. Loin de moi la pensée de justifier Isaac ou de vous l'imposer, madame.
Seulement il est le seul à qui je puisse confier votre proposition,
car il est extrêmement remuant, et il sait trouver ce qu'il cherche.
Excepté cependant un cloître à son goût,
fit Eugraphia en riant.
Il y a des exceptions en toutes choses, madame.
Au surplus, il aurait peut-être trouvé ici ce cloître.
Mais Chrysostome le repoussa très nettement,
en lui déclarant sèchement qu'il devait retourner chez lui et rentrer dans son ancienne maison.
Et il lui donna même l'argent nécessaire à son voyage.
Ce procédé despotique irrita le bon Isaac.
Il est resté ici pour montrer au patriarche qu'il n'était pas sous sa dépendance.
Et il a vécu avec l'argent du voyage, n'est-ce pas ?
Fit Eugraphia d'un ton de blâme.
Dans le commencement, oui,
répondit Florus.
Ensuite, l'excellent Eugénus s'intéressa à lui, surtout après que la diaconesse Olympia l'eût repoussé si vilainement.
Ah, c'était cet Isaac !
Fit Eugraphia, cela suffit.
De tout ce que vous dites, il résulte que ce moine est un homme méprisable,
mais qui pourra nous servir dans ce cas particulier, car je le paierai richement.
Prenez donc les arrangements nécessaires avec lui,
et partez avec la grâce de Dieu, vous pour Alexandrie, lui pour Antioche,
car il faut nous armer de toutes pièces contre l'esprit du fanatisme qui menace ici de nous étouffer.
L'homme contre lequel on dirigeait ses intrigues et ses accusations continuait à marcher tranquillement dans la voie qu'il s'était marquée sur les traces du bon pasteur. Toute cette haine, toute cette amertume ne pouvait le toucher, encore moins l'affliger. Son fidèle diacre Sérapion lui exprimait quelquefois la tristesse que lui causaient ses injustes inimitiés.
« Ce n'est pas proprement à moi qu'elle s'adresse, répondait-il avec douceur, mais au portrait imaginaire que l'on se fait de moi.
« Mais elle s'attaque pourtant à votre sainteté, reprit le diacre avec chagrin.
Dieu me donnera peut-être la grâce d'en triompher avec le temps, mon fils.
Dans les orages terribles qui bouleversent le monde, un grand nombre perdent les principes chrétiens qui doivent leur servir de règles et de bases. Ils chancellent, ils vacillent, ils s'accrochent tantôt à un soutien, tantôt à un autre. Ils se façonnent et se plient aux circonstances. Et ils croient que nous, à qui le Seigneur a confié la direction de son Église, nous devons faire la même chose. Quand une fois on s'est séparé des principes du christianisme, les esprits sont entraînés dans un immense chaos, d'où Dieu seul, quand il lui plaît de se montrer, peut les faire sortir, par les instruments qu'il connaît, pour les rappeler dans les voies de la vérité.
Nous devons travailler, mon fils, comme il convient à des serviteurs d'un maître infiniment bon et infiniment grand, et attendre de lui toute bénédiction, car par nous-mêmes nous ne sommes que des serviteurs inutiles.
Ainsi pensait Chrysostome, et comme il pensait, il parlait, il enseignait, il agissait, tout simple, tout calme, tout inébranlable.
Vous êtes trop saint pour ce monde d'iniquité, vénérable père, dit Sérapion.
Pour se justifier, il cherche à trouver des crimes à votre conduite. Et le dirais-je, quelquefois il me semble que vous pourriez descendre un peu de votre hauteur.
Et quand, mon fils ? Demanda Chrysostome amicalement.
Si vous vouliez, je suppose, vous montrer de temps en temps, les jours de fête, à la table des grands personnages, par exemple chez Optatus, le préfet de Constantinople, ou bien si vous vouliez de temps en temps vous acheter des meubles de prix, des tapis, des vêtements en belle étoffe. Les grands se plaignent de votre fierté incivile, et les marchands se plaignent de votre avarice. Ne serait-il pas bon de les apaiser ?
Si les pauvres, les prisonniers, les malades, les veuves et les orphelins sans ressources se plaignent de mon avarice,
alors, mon bon Sérapion, je veux bien me corriger, dit en riant le patriarche. Les marchands, laissez-les crier. Qu'ils cherchent leur proie auprès des gens qui ne sont pas chargés de soigner les membres souffrants du corps mystique de Jésus. Quant aux grandes dames, elles doivent au fond être très contentes que je ne paraisse pas à leur fête, car ni mon habit ni mon état ne conviennent en ces lieux-là.
Souvenez-vous de ce que le grand Grégoire de Nazianze écrit au sujet de ces festins.
Chrysostome déroula un parchemin et lut.
Des coussins moelleux ne nous suffisent plus. Il faut étendre par-dessus de riches étoffes de soie, pour que nous soyons plus mollement assis à table. Le parquet, au lieu d'être couvert d'un tapis, doit être en belle mosaïque avec incrustation de fleurs rares, et la table doit être parfumée des essences les plus délicates et les plus précieuses, comme il convient à des hommes efféminés. Des petits garçons en beaux habits de fête, les cheveux roulés et frisés et parés comme des femmes, doivent se tenir sur un rang,
pour nous rafraîchir avec de larges éventails, ou nous présenter la coupe du bout des doigts, pendant que les cuisiniers et les pâtissiers nous font des plats sucrés, des friandises, dont on mange presque jusqu'au point d'étouffer, et chargent la table de mets pour lesquels nous mettons à contribution la terre, l'air et l'eau.
Voilà comment les choses se passaient il y a 24 ans à Constantinople,
continua Chrysostome, et comment elles se passent encore aujourd'hui. Convient-il à la dignité du prêtre de paraître à de tels banquets?
Et si j'y allais réellement? On trouverait encore matière à critique. On blâmerait mon vêtement pauvre, la sobriété à laquelle je me suis habitué dans ma vie solitaire.
Mais si je voulais céder sur tous ces points, pour plaire aux gens du monde, où irais-je alors, mon fils?
Vous avez toujours raison, Saint-Père, dit Sérapion en souriant tristement. Mais ce même esprit mondain qui a fait chasser le grand Grégoire du siège patriarchal de Constantinople et l'a obligé à retourner à Nazianz, sa ville natale, assemble aujourd'hui ses légions contre vous.
Et quand il me forcera à retourner dans mon pays, que faudrait-il voir dans cet événement?
Une seule chose, c'est que la sagesse éternelle poursuit ses plans merveilleux, incompréhensibles.
Mais l'Église, mon père, s'écria Sérapion avec l'accent de la douleur,
mais la sainte foi!
Vous ne vous imaginez pas, j'espère, demanda le patriarche, que ma présence en ce lieu soit nécessaire pour que la passion du Sauveur du monde accomplisse son œuvre régénératrice sur la terre.
Le chandelier peut être transporté d'un lieu à un autre. Les ténèbres peuvent succéder à la lumière.
Mais alors la sainte foi brillera dans d'autres régions.
Et l'Église gagnera plus qu'elle n'a perdu.
Oh, mon fils! Le Seigneur doit-il vous dire à vous aussi, oh, homme de peu de foi?
Chrysostome n'aimait pas que ses prêtres lui parlassent ou s'entretinssent entre eux de leurs craintes. Il y voyait une perte de temps inutile, au détriment de l'activité féconde, et il ne cessait pas un seul instant de donner l'exemple de l'accomplissement infatigable du devoir. Il prêchait, il donnait des conférences édifiantes avec son clergé, il visitait les hôpitaux et aussi les prisons pour soulager les besoins corporels et spirituels des malheureux captifs. Il était tout entier à tous ceux qui lui demandait des secours ou des consolations. Il montrait une sévérité salutaire à l'égard des pécheurs impénitents, surtout pour les religieux ou les religieuses qui négligeaient les devoirs de leur état, et il traitait avec douceur et pardon ceux qui témoignaient un sincère repentir. Il était ainsi trop semblable à son divin maître pour ne pas partager aussi sa croix.